veut pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Enivrez-vous. Enivrez-vous sans trêve.
Bonjour Martin Page, bienvenue sur Radio Primitive. Je ne sais pas si vous
m'entendez bien. Oui, pardon, j'ai les écouteurs dans les oreilles, donc c'est toujours un peu... ça déréalise pour moi un peu les choses, mais ça va, je vous entends bien.
Je comprends. Alors aujourd'hui, on va parler de votre ouvrage paru l'année dernière, en fin d'année dernière, en octobre 2025, « Douceur de la musculation » aux éditions Le Nouvel Attila. Est-ce que vous pourriez, avant toute chose, vous présenter à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui ?
Alors, je suis écrivain, je publie des livres depuis à peu près 25 ans. Plutôt des romans, j'ai publié aussi des livres jeunesse, des essais, dont un essai sur la sexualité, un essai sur la cause animale. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit le scénario d'une bande dessinée. Avec ma compagne Connie Pierre, on a monté une petite maison d'édition qui s'appelait Monstrographe, qui a une existence assez éphémère, mais on a pu proposer des textes qui nous semblaient importants, qui étaient pas ou peu disponibles en librairie. Et j'habite à Nantes et je suis papa d'un enfant de presque 11 ans.
Voilà. D'accord, super. Et donc, vous avez écrit principalement des romans, enfin de la fiction
Oui, c'est ça, la fiction.
Et pourquoi écrire du coup sur la musculation et sur ce sujet qu'est le sport ?
Bah déjà, je trouve que c'est parmi la palette des outils d'un écrivain, il y a le roman, la littérature jeunesse, mais aussi les essais. Et c'est vrai que ça m'intéresse de pas rester collé à une routine, d'essayer d'emprunter d'autres chemins. Et pour ça, les essais, c'est toujours très très intéressant. Ça permet d'aborder un sujet de manière plus frontale. Et alors pourquoi la musculation? Il me semble que c'est la poursuite d'un travail que j'ai pu faire sur le corps. J'ai écrit un livre sur la cause animale. Là, pour le coup, sur le corps des animaux, sur notre corps aussi à nous, sur le corps des êtres humains qui parfois se nourrissent du corps des animaux. J'ai écrit un livre qui s'appelle Au-delà de la pénétration sur le corps dans les rapports hétérosexuels, on va dire. Et donc là aujourd'hui, c'est un livre sur la musculation. Pour moi, il y a une certaine logique. Ça parle de l'existence de notre corps dans le monde, de l'existence de notre corps par rapport aux autres corps, et de douleur, de plaisir et de puissance. Donc il y a vraiment une continuité. Je pense que si je me suis intéressé aussi à la musculation, c'est parce que c'est un sujet qui est c'est en train de changer, mais c'est un sujet qui est assez mal considéré. Il y a beaucoup de préjugés qui entourent la musculation. Et ça m'intéresse d'aller du côté de la littérature et des livres qui ne sont pas chics. Ça m'intéresse du côté de là où il y a de la mésestime et des préjugés, en fait, pour défendre les gens qui pratiquent et défendre aussi une discipline. Donc, j'estime que mon travail d'écrivain, c'est de pas laisser le monde dans l'état dans lequel j'ai trouvé en arrivant.
Oui.
C'est de faire bouger les représentations, de faire bouger les lignes. Et donc, parmi tous les sujets, il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est un sujet à la fois qui est lié au corps, donc apparemment un sujet qui m'intéresse, mais aussi un sujet qui, dans mon milieu, on va dire, professionnel, social, donc qui est plutôt un milieu qui a fait des études, qui lie un milieu, on va dire, d'artistes, d'intello, de gens très politisés, etc., etc. Malgré tout, ça reste un milieu qui peut avoir de la condescendance. Je trouve que la condescendance est une violence, c'est une erreur politique aussi. Et donc, ça m'intéressait d'être là pour dire, en fait, c'est pas ce que vos préjugés vous disent. D'autant plus que ces préjugés, j'ai pu avoir moi par le passé. Donc, je juge pas non plus les gens qui ont des préjugés, hein, soyons clairs.
Et quand vous dites condescendance, c'est la condescendance par rapport au sport, justement à cette pratique?
Par rapport... Alors, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tous les sports ne sont pas jugés à la même enseigne. On voit bien que le running, par exemple, a plutôt une bonne image, même parmi des intellos. même parmi les artistes. Sans doute parce qu'il y a des artistes et des auteurs et des autrices qui ont écrit sur le running. Ça légitime en fait une pratique aux yeux de cette classe sociale-là. La boxe aussi a plutôt une bonne image grâce à Mingwei, grâce à Joyce Carol Oates, l'écrivaine qui a écrit aussi un livre sur la boxe. Le football aussi, pas mal d'écrivains qui sont sur le football, le rugby, le tennis. Donc il y a la voile. Donc il y a des sports qui ont une bonne image sociale, on va dire, qui peuvent être parfois des sports populaires, mais aussi des sports qui sont loués par des classes moyennes ou moyennes supérieures ou supérieures. Mais ce n'est pas le cas de la musculation. C'est en train de changer, je pense, un peu, heureusement. Mais la musculation, il n'y a pas de raison, en fait, que certaines disciplines sportives soient méprisées et moquées et d'autres soient encensées.
Oui, vous dites dans le livre justement que la musculation, c'est plutôt un sport des classes populaires où finalement on n'a pas besoin d'énormément d'outils, de matériel et on peut aussi faire des calisthenics au poids de corps, etc. Mais ça reste du coup quand même un sport qui n'est pas forcément bien vu par les élites bourgeoises ou...
Oui, et aussi par le monde politique. C'est-à-dire que le monde politique peut très facilement récupérer des compétitions sportives pour sa propre promotion. Je pense au football, au rugby. Ça peut faire les titres des journaux. Ça participe à la communication politique. Mais la musculation, effectivement, c'est un sport qui peut ne rien coûter. Ensuite, qui peut coûter un peu. On peut s'inscrire à des salles de musculation. Mais aujourd'hui, les prix sont devenus assez peu chers, en tout cas dans certains réseaux de salles. Mais oui, c'est une pratique qui est plutôt une pratique populaire, qui est plutôt une pratique masculine. Mais là aussi, c'est en train de changer. J'ai aussi écrit ce livre pour j'espère aider au changement. C'est une pratique qui peut paraître viriliste, mais qui n'est pas, ou en tout cas pas plus que d'autres sports, que la voile, que d'autres d'autres activités. Simplement, c'est un peu plus évident. Les apparences peuvent faire croire à ça, mais c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que cette image-là. Donc, comme la musculation a mauvaise réputation, parce que je pratique la musculation, je pratique aussi le running, mais je pratique la musculation, je vois à l'intérieur que l'image social que l'on peut avoir de la musculation très très loin de la réalité. Et ça m'intéressait aussi de manière plus générale de défendre les muscles parce que tous les êtres humains sont musclés. À partir d'un certain âge, on commence par perdre de la masse musculaire et on peut en perdre énormément si on ne fait rien. Et ces muscles en fait sont du soin pour soi, du soin pour les autres. Ça permet de bien vieillir, ça permet de prendre soin des autres. Donc, c'est pas du tout anodin cette question des muscles, c'est pas du tout futile, c'est pas superficiel.
Oui, vous dites aussi
c'est une question très importante.
De votre expérience aussi, vous dites que c'est pas séparé non plus d'aspects psychologiques, que vous faites du sport aussi pour des raisons psychologiques et pas forcément pour le côté physique et athlétique que la musculation peut apporter aussi.
Oui, bien sûr, c'est toujours sans doute une raison de l'écriture de ce livre. C'est attaqué à ce dogme encore très, très ancré qui est la séparation du corps et de l'esprit, qui est une ânerie, hein, ça, pour le coup, la science nous le dit très clairement, mais c'est encore très, très présent. Oui, évidemment, la musculation, enfin, je dis évidemment, c'est pas forcément évident, mais la musculation, ça a des effets sur notre corps. Et là aussi, je veux dire que le terme musculation est parfois trompeur, parce que quand on fait de la musculation, on travaille aussi nos tendons, nos ligaments, on travaille, il y a beaucoup de choses au niveau métabolique aussi qui se passent. C'est pas que les muscles. C'est vraiment, ça a des implications extrêmement importantes à tous les niveaux, et ça a aussi des implications sur la chimie de notre cerveau, sur nos neurotransmetteurs. Ça a d'implications sur notre humeur, sur nos hormones. Et donc, oui, moi, j'ai traversé des épisodes dépressifs et un antidépresseur peut être utile, comme la thérapie aussi par la parole. J'invite les gens qui en ont les moyens à aller vers la thérapie par la parole. Mais on n'a jamais trop d'alliés, en fait, quand il s'agit de lutter contre la dépression ou contre d'autres problèmes psychique. Et donc, pour le coup, là, la science aussi est très, très claire. Il y a des études qui ont été faites et le travail, l'activité physique en général et en particulier la pratique de la musculation a un effet très positif sur notre psychologie.
Oui, vous en parlez d'ailleurs très bien dans le livre sur les effets sur l'amélioration psychique pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques ou même la neurogénèse aussi, le fait d'avoir un cerveau qui peut évoluer grâce à l'effort physique. On peut faire une petite pause musicale en attendant de poursuivre.
Bien sûr.
Vous m'avez proposé des musiques pour faire des petits intermèdes musicaux dans cet échange, dont cette musique, Gabriels. Pourquoi ce choix?
Alors, c'est compliqué. Je ne connaissais pas du tout Gabriels. Et je sais pas, c'est une musique que je trouve fascinante, entêtante, sublime. Et elle est très peu connue. Donc, je suis ici aussi pour faire découvrir des artistes qui sont, à mon goût, encore peu connus pour une chanson qui est pour moi un chef-d'œuvre.
Ok, super. Bah, on s'écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après.
Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when I knew can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down? Down these halls of rolling ice and waterfalls, I can't help but smile. Troubled fortunes lie in shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm captive if it's where I wanna be.
Ooh, la, 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 la.
Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down? Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down?
De retour sur Radio Primitive avec Martin Page pour parler de douceur de la musculation. Alors moi, il y avait une citation du livre que j'ai adorée, vraiment. Je vais la lire tout de suite et on en parle après. Alors je cite le livre. « Comme beaucoup de personnes queer, neuroatypiques ou inadaptées, j'ai été dégoûtée du sport au collège et au lycée. Dans les années 80-90, une pédagogie viriliste, validiste, sexiste et grossophobe régnait souvent. Les cours se passaient ainsi. Les élèves les plus forts et les plus doués étaient désignés et se chargeaient de constituer les équipes. Forcément, nous étions choisis en dernier. Nous étions le rebut. Pour cette raison, nous avons cru que le sport n'était pas pour nous. Je veux le dire clairement, On nous a volé l'expérience physique. On nous en a dégoûté et ça a des conséquences désastreuses pour nous, notre santé, notre liberté, mais aussi pour la société. À chaque fois qu'un enfant est en échec et est humilié, on fabrique des catastrophes qui façonnent et détruisent les individus et la collectivité. Alors c'est vraiment cette partie du livre qui m'a vraiment donné envie de poursuivre aussi sur ce sujet-là, parce que c'est intéressant aussi de voir à quel point, dès l'enfance, dès l'école, dès très tôt, en fait, on est aussi façonné par rapport au sport, en fait.
Oui, et au-delà du sport, je pense que cette humiliation, on peut aussi la connaître par les mathématiques ou
bien
par
sûr.
D'autres disciplines. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'est pas sorti. C'est pas de l'ordre d'une responsabilité individuelle, mais c'est une structure, c'est un système qui fait que sortent de l'école des enfants qui vont être qui ont vécu des humiliations, qui vont être tristes, qui vont être brisés. Qui vont détester les maths ou ne pas aimer les maths ou la lecture. Et ça ne donnera rien de bon pour ces enfants devenus grands ni pour la société. Alors j'espère que ça a changé. Hein. Moi, je parle depuis les années 80 et début des années 90. J'espère que l'enseignement du sport a changé. Mais à mon époque, et j'ai beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là, c'est pas du tout, mon cas n'est pas particulier. À mon époque, c'était la norme, en fait, ce genre d'éducation au sport. Et donc, je peux comprendre que des gamins...
Dans les années 2000 aussi, à mon époque.
Oui. Ah ouais. Bon, tout ça est très triste. Et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts aussi pour ces gamins devenus grands qui vont lâcher le sport. Et on sait à quel point le sport est important. Pour bien vieillir, c'est vraiment. Ensuite, on peut faire tous les messages de santé publique qu'on veut. Bouger plus, ça servira à rien en fait. C'est vraiment dès l'enfance, dès l'adolescence qu'il faut travailler à ça et promouvoir une vision du sport, de l'activité physique qui ne repose pas sur l'humiliation, ce que je disais, le virilisme, le sexisme, la grossophobie, la compétition. C'est vraiment. Ensuite, il y a une logique aussi au comportement des gens qui, ayant été humiliés pendant les cours de sport, essayent de retourner le stigmate en disant, en se moquant au final des sportifs, en se moquant des sportifs surtout les plus qui peuvent sembler les plus caricaturaux, c'est avec des gros muscles. Mais je crois qu'on gagne rien à transformer nos blessures en moqueries à l'égard d'autres personnes qui peuvent subir en plus des oppressions. Et donc, je comprends ce mouvement-là. Je pense que j'ai participé aussi à ça, à moquer des sportifs. Mais je pense que c'est une erreur tragique pour nous, pour les sportifs et pour la société. Donc, il est temps de sortir de ce cercle vicieux. J'ai été super touché par les retours. Je suis désolé, je parle du nez parce que j'ai un gros rhume, là. Un petit rhume. J'ai été super touché par la réaction au livre. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, justement, étaient un peu des traumatisés du sport au collège et au lycée, mais qui n'étaient pas satisfaits de ça, qui ont lu mon livre et qui se sont remis au sport, qui se sont remis à la course, à la musculation. J'ai eu beaucoup, beaucoup de messages qui sont absolument bouleversants.
Ça a créé des déclics, en fait, de personnes qui se reconnaissent aussi dans la couverture du livre où vraiment tout le... les personnes souvent stigmatisées sont citées, les femmes, les inadaptées, les vieux, les handicapés, les neuroatypiques, les parents, les pauvres, les non-conformes, les dégoûtés du sport.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai un souvenir, j'étais à Bordeaux pour un festival il y a quelques semaines, et là, il y a trois dames, je ne sais pas quel âge elles avaient, peut-être 75 ans, en fait, qui ont lu mon livre dans leur club de lecture et qui après se sont mis à la musculation. Et c'est incroyable.
Ouais. C'est le pouvoir d'un livre, c'est incroyable.
Donc voilà, musculation adaptée à leur âge, évidemment. Et il y a aussi un monsieur qui est venu me voir, qui avait à peu près dans la même zoo, et qui lui s'est mis à musculation grâce à mon livre, et ça l'aide en fait à s'occuper de sa femme qui est malade.
D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a une grosse partie aussi du livre où il y a le côté où vous faites la promotion de la musculation pour le côté, toute la force que ça apporte aussi au quotidien, pour les petits mouvements du quotidien, pour aider les autres et avoir une force aussi bien mentale que physique, quoi.
Ouais, bien sûr. En France, il y a 20 000 personnes qui meurent chaque année de chute chez eux, chez elles. c'est énorme. La musculation, ça protège. Ça permet d'avoir aussi plus d'équilibre, d'avoir une meilleure proprioception. Donc, la musculation, ça participe à prévenir ce genre d'accident. Et ça permet aussi d'aider les autres, en fait, ou quand on est parent, de pouvoir porter notre enfant, la valise, la poussette, sans se faire des tendinites, hein, ce qui arrivait à ma compagne et à moi. Donc, oui, maintenant, ce que je dis à un moment dans le livre, c'est quand je vois une personne musclée, je me garde bien de la juger. Je me dis, c'est peut-être si quelqu'un qui est musclé parce que cette personne doit aider les siens, en fait. Peut-être que cette personne parfois va voir sa grand-mère et doit la porter pour qu'elle puisse s'asseoir dans son lit, dans son fauteuil. Enfin, on ne connaît pas la vie des gens, donc ouais, j'insiste vraiment sur cette idée que le muscle, c'est du soin pour soi, comme je le disais avant, et parfois aussi du soin pour les autres, parce que il y a aussi une conséquence en fait au fait de laisser la sarcopénie s'installer. Une sarcopénie, c'est la perte progressive de masse musculaire, qui est un phénomène naturel. On n'est pas obligé de la laisser s'installer. C'est que je vois ça, il y a deux grand-mères là de ma compagne qui sont mortes il n'y a pas longtemps, qui avaient plus de 90 ans et qui, les dernières années, étaient très faibles et incapables de se déplacer pour des longues distances, parfois de se lever. Et elles ont terminé leur jour en EHPAD. Et là, ce sont des aides-soignantes qui passent leur temps à porter, à soulever, à aider les personnes âgées et qui, par contre-coup, ces aides-soignantes voient aussi leur corps s'abîmer. Donc c'est extrêmement important de se muscler particulièrement. Voilà, si je pense qu'il y a une population pour qui j'aimerais que ce livre touche une population particulière, c'est les personnes âgées.
D'accord. Ah oui.
C'est là où il y a le plus de bénéfices en fait,
Ouais.
extrêmement rapide. Et en plus, pour gagner en masse musculaire, pour renforcer les tendons, les ligaments, on n'a pas besoin de 2 ans de pratique en fait.
Oui.
En quelques semaines, en 2, 3 mois, il y a déjà des effets
Oui, vous le dites d'ailleurs,
manifestes,
c'est
réels.
quelques minutes par jour suffisent et
Oui, bien sûr. Et c'est aussi un truc que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de risque, même en faisant de la musculation 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine, il n'y a pas de risque. Je sais que c'est une peur chez certaines femmes. Il n'y a pas de risque d'avoir des gros muscles.
Oui.
Non, faut le dire, parce que c'est avoir des gros muscles, c'est possible en musculation, et pourquoi pas. Mais c'est un travail très spécifique. La plupart des gens qui pratiquent la musculation, en fait, enfin, si on les voit torse nu, on peut peut-être remarquer des muscles un peu plus fermes et tout ça, mais ça développe pas des gros biscottos.
Oui.
Il n'y a aucun risque, quoi.
Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de votre expérience aussi d'avoir passé la porte de la salle de sport pour commencer la
Ouais.
musculation. Enfin, c'est vrai que vous le dites dans le livre aussi, c'est que principalement dans les salles de sport, on voit des hommes en bonne santé, blancs, musclés.
C'est vrai.
C'est une majorité de la population qui fréquente les salles de sport, donc c'est toujours un peu difficile, aussi même de peut-être de s'y tenir aussi une fois qu'on a passé la porte de la salle de sport, de se dire mais voilà, est-ce que c'est là ma place? Comment on va retourner le stigmate et se dire voilà, mon corps a sa place à la salle de sport au milieu de. Enfin, surtout quand je pense aux personnes aussi malades, aux personnes âgées, mais ou alors enfin,
Bien sûr.
c'est une
Alors,
réflexion intéressante aussi.
déjà, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un effort. Mais moi, je milite pour qu'il y ait des salles de musculation publiques, en fait, hein, qu'il y ait une vraie réflexion publique et politique sur ce sujet-là. En attendant, oui, j'aimerais que les salles privées soient plus inclusives, qu'il y ait plus d'accès handicapés, qu'il y ait des coachs handicapés, par exemple. Ensuite, je pense que le public, il varie beaucoup suivant les salles de musculation. À ma salle, il y a quelques jours, j'ai vu, il y a une personne aveugle ou malvoyante, avec une canne, par exemple. J'ai vu une femme enceinte. Ce matin, j'y étais ce matin, je dirais qu'il y avait peut-être 40% de personnes âgées. Parce que c'était... Alors qu'à midi, tout de suite, le public change et c'est plus
Oui.
des gens jeunes, des femmes et des hommes, mais qui viennent à la salle de musculation sur leur heure du midi, en fait.
Oui.
Le soir, c'est aussi un autre public. Le week-end, c'est un autre public. Donc, en fait, le public d'une salle de musculation varie beaucoup suivant les heures. Ça, c'est vraiment très, très important. Suivant les heures, suivant la ville, suivant la localisation géographique, suivant la chaîne de salle de musculation à laquelle on va. Donc, c'est vraiment plus en... Moi, je trouve que c'est de plus en plus varié. Et c'est rassurant de se voir que ça bouge. Et même quand parfois il y a plus d'hommes, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive, c'est pas du tout évident, hein, mais à se dire aussi que, à pas juger a priori, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai l'expérience de, parfois, il y a des gens qui viennent me demander des conseils, parfois, je demande des conseils. Mmh. En fait, quand on va parler aux gens, ils ont parfois même des gens très musclés, qui ont l'air très, très forts, et ça, ils sont un peu impressionnants et tout, ils ont l'air peut-être arrogants. Mais il suffit d'aller leur parler pour voir en fait que la plupart du temps, ce sont des gens gentils qui pourront donner un conseil ou aider. Ensuite, il y a des salles type des salles personnages, mais pas plus dans une salle de musculation qu'ailleurs finalement. Mm. Donc, faut juste qu'on arrive à dépasser un peu notre appréhension et nos préjugés. Mm. Mais en tout cas, oui, ce matin, c'était frappant de voir à quel point il y avait des personnes âgées. Donc, c'est vraiment super.
Et puis quand on brise la glace, on va aussi au-delà des stéréotypes qui sont véhiculés par les médias et on se rend compte en fait que c'est tout aussi, enfin c'est vraiment différent de ce qu'on pense quand on rencontre aussi les personnes directement à la salle de sport et qu'on va à leur rencontre.
Exactement, ouais. Ah,
non, parce que c'est véhiculé clairement par les médias, le sport de masse, les Jeux olympiques, tous ces stéréotypes. Là, qui façonne nos imaginaires un peu, vous en parlez, hein, des imaginaires masculinistes, ça vient clairement de là ou
Oui, ça vient de là, ça vient aussi des. Je pense aussi de notre culture qui a voulu séparer les choses, en fait, qui a voulu séparer le corps musclé du corps pensant. Ensuite, je pense que. Comment est-ce que je pourrais dire les choses Oui, c'est drôle parce que c'est un truc qu'on apprend dans d'autres milieux. Par exemple, on dit il ne faut pas juger les gens sur leur apparence, sur le fait qu'ils peuvent être gros, vieux et tout ça. Et là, faudrait faire la même chose en fait, ne pas juger a priori les gens parce que ce sont des gens qui sont très musclés et qu'on a l'air de maîtriser. Je veux dire aussi que le fait que dans la salle de musculation, il y a des gens effectivement qui maîtrisent parfaitement les machines, les exercices et tout ça. Ça ne doit pas enlever le fait que c'est une pratique qui est excessivement accessible aux amateurs. Il n'y a pas besoin, je pense qu'il y a des sports qui peuvent être très techniques. Je pense à la voile, par exemple, on ne va pas commencer à piloter un catamaran sans connaissance. Pour le coup, les connaissances nécessaires à pratiquer la musculation sont simples, vraiment très accessibles. On peut commencer avec des charges très légères, il y a des mouvements basiques qui sont néanmoins efficaces. C'est vraiment la musculation à tout pour être le sport le plus accessible possible, en fait. Mmh. On peut faire la musculation jusqu'à la fin de sa vie. On peut commencer par des petits poids, aller vers des plus gros poids après. On peut reculer, on peut faire des mouvements amples, des mouvements pas amples. On peut être assis, couché, debout. En fait, tout est possible. Mmh. C'est vraiment... ce sport a les atouts pour être le sport inclusif, le plus inclusif qui soit. Il faut juste qu'on arrive à faire en sorte, à changer les représentations et à faire en sorte que ces lieux soient le plus accueillants possible.
Oui, c'est ça. Vous dites aussi, il s'agit de contribuer à changer le regard sur les corps, de changer les normes du désir concernant les corps gros, les femmes qui ont des muscles importants, les hommes petits, les femmes grandes, les différentes carnations, les handicaps. Le chantier est immense et commence à peine. Il y a plein de propositions innovantes et aussi pour changer les représentations qui semblent primordiales actuellement quoi, et très importantes à rappeler.
Oui, et au-delà de la salle de musculation, évidemment, c'est un effort collectif de toute la société pour arrêter de juger les gens sur leur physique, mais aussi pour mettre en place aussi... des possibilités, ce que je disais tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait plus d'accès handicapé dans la salle de musculation, mais dans les théâtres aussi, en fait, hein,
oui.
Ou à l'opéra, ou dans tous les autres lieux. Et il faudrait aussi, ça, je pense, c'est extrêmement important, mais je ne vois pas comment ça peut être mis en place, à part dans les structures publiques, ou par la loi. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des coachs handicapés, par exemple, pour accueillir des pratiquants ou des pratiquantes pas handicapés ou handicapés, vraiment qu'on montre que la musculation est accessible à la plupart des gens et elle a des bénéfices pour la plupart des gens. Donc, ouais.
Très bien. On va faire une petite pause musicale et vous avez proposé Briller, la chanson de K-pop Demons Hunter. Pourquoi ce choix ?
Alors, parce que c'est un film d'animation qu'on a beaucoup regardé avec mon fils et qu'on regarde toujours de temps en temps. Parce que c'était, je trouve que c'est, là encore, c'est peut-être une question de mauvaise réputation et de représentation. La K-pop a pas forcément une très très bonne réputation, les longs métrages d'animation non plus, et on peut voir en fait qu'une, je trouve que c'est un bon exemple d'une œuvre de fiction, donc du côté de la K-pop et de l'animation, produite par un gros studio et diffusée sur un gros service de streaming, qui est néanmoins une œuvre que moi je considère comme une œuvre d'art et une œuvre aussi politique et qui parle de plein plein de sujets. Et c'est, en plus, c'est entraînant. Je pense qu'il y a quelque chose de, c'est accessible, c'est entraînant. Les mélodies sont belles et efficaces. Je trouve que dans un monde où on a l'impression qu'il faut qu'une œuvre d'art soit forcément difficile, et ben on, et avec des barrières à l'accessibilité, ben on voit en fait qu'une œuvre d'art importante peut aussi être accessible. Voilà.
Accessible et rassembler et faire danser beaucoup de monde.
Oui.
On s'écoute ça tout de suite.
Dans le silence depuis l'enfance, je me cache, je m'efface. En lumière, comment me faire cette place? Moi qui suis née pour que l'on me voie. Entre deux filles, dis-moi qui je suis. J'ai besoin de trouver ma place. Je connais les conflits, je fais trop de bruit, mais j'ai pas peur de mon audace. Regarde-moi bien en face. J'en ai assez, je veux. J'ai ces marques loin, j'ai tant menti, oh oui, bien trop de fois. Mais j'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. Car les guerrières sont là et chantent encore, telle est ma vie. On est là, pop, 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 c'est notre moment. Rien ne pourra nous arrêter, on est venu là pour briller.
De retour sur Radio Primitive avec Martin Page. Alors, on parlait de l'importance aussi de changer à la fois nos regards sur les corps et peut-être d'avoir plus de coachs coach en situation de handicap ou souffrant de troubles psy ou autres.
Oui.
J'ai retenu aussi dans le livre votre rencontre avec une certaine Marion. À l'époque, vous étiez en train de créer un groupe de running, ce que j'ai compris, et vous êtes rencontrés sur Instagram. Et Marion, donc, elle souhaitait aussi à un moment donné s'inscrire pour devenir justement coach en activité physique adaptée. Et j'ai retenu en fait les épreuves proposées pour être intégrée dans ce diplôme-là. C'est, enfin, on y trouve aussi un salto arrière.
Oui,
il faut faire un salto. Donc, c'est pas des plus inclusifs pour rentrer dans ce type de diplôme.
Oui, c'est vraiment. En fait, on gâche des talents, des possibilités. Marion, elle a une connaissance de la musculation qui est importante, qui est fine, qui est encyclopédique, qui est pratique. C'est aussi quelqu'un qui nage beaucoup. Et elle est grosse, comme on le disait, c'est elle qui veut qu'on utilise ce terme. Et c'est évident que ça ferait une super coach, une super prof de je sais plus le terme, mais de
entraînement physique adapté. Activité physique adaptée,
Oui, d'activité physique adaptée. Mais évidemment, faire un salto pour elle, c'est très difficile, voire impossible. Et on sent qu'il y a toujours des rigueurs administratives. Qui empêche en fait des personnes compétentes, non seulement compétentes, mais qui pourraient changer aussi l'image d'une profession. Et donc, il faut que la société bouge parce qu'il y a plein de gens talentueux qui n'ont pas accès en fait à des postes, à des métiers où ils seraient absolument épatants, on ne pourra pas changer la société sans ces personnes. Faut vraiment tenir compte des personnes qui sont concernées par le handicap, par la maladie. Et vous citiez, j'avais oublié tout à l'heure, mais c'est vrai que les personnes qui ont des problèmes psychiques aussi, les personnes neuroatypiques, moi je voudrais qu'il y ait des coachs qui ont des troubles psychiques aussi. C'est important de voir qu'on peut fonctionner, qu'on peut être utile, qu'on peut apporter aux autres tout en ayant des problèmes psychiques ou une neuroatypie par exemple. Parce que là, le modèle des coachs, ça reste, et c'est des gens souvent très compétents, mais ça reste un peu toujours... des jeunes gens sveltes, musclés, c'est un peu des mannequins presque. Il y a un truc, on est vraiment dans le cliché et on a besoin d'autres choses, quoi.
Et ça m'a fait penser à l'ouvrage de Camille Test, Politiser le bien-être, justement ce sujet.
Oui, super livre.
Et elle parle aussi justement de l'importance de changer, de faire évoluer les pratiques dans ce sens-là avec des coachs. Concernés par des troubles ou des handicaps.
Elle parle de ça dans son livre,
Oui, il me semble.
Ah,
oui,
super. En partie. Je l'ai lu il y a longtemps, mais il est vraiment super ce livre. Enfin, longtemps, il n'est pas sorti il y a longtemps d'ailleurs. Mais... Oui, heureusement, il y a Camille Tess qui a un super podcast qui s'appelle Encore Heureux, je crois.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est en train de bouger. Mais comme tous les changements sociaux, je pense qu'on plante des graines, on pose des jalons, on offre des outils, des armes. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est ma médecin généraliste, qui me disait, pour quelqu'un qui s'était, par exemple, fait mal au genou il y a 20 ans, on lui disait, surtout arrêtez le sport, ne bougez plus. Et aujourd'hui, elle me dit, en fait, on sait que c'était une erreur, quoi.
Et c'est la kinésiophobie. J'ai appris un nouveau mot aussi. Kinésiophobie, d'avoir peur de. Quand on a une douleur, d'avoir peur de bouger et de.
Ouais, mais ça, c'était porté aussi par des médecins. Et aussi, aujourd'hui, maintenant, les médecins, la plupart des médecins savent que quelqu'un qui s'est fait une blessure, qui se fait mal au genou, il faut surtout pas lui dire d'arrêter de bouger. Il faut renforcer, faire du renforcement musculaire, aller voir un kiné. Et au contraire, il faut que le corps soit toujours. Évidemment, il faut adapter. Il ne s'agit pas de courir un marathon avec un genou en vrac, mais le fait d'arrêter de bouger et de pratiquer une activité physique, c'était le pire conseil qu'on pouvait donner. Parce que ce qui tue, c'est des majeures causes de décès, c'est l'inactivité. Mais comme vous le dites, il y a la peur de bouger, de se faire mal, surtout avec la musculation, parce qu'il y a des haltères, il y a des kettlebells, il y a des machines, ça a l'air très complexe, dangereux, alors que c'est le contraire. C'est simple et pas dangereux. La musculation, pour le coup, il y a des études qui ont été faites, c'est un des sports où on se blesse le moins. On peut se blesser, évidemment, mais on se blesse beaucoup plus au tennis, on se blesse beaucoup plus au foot, on se blesse beaucoup plus. Donc, non, il faut vraiment... Il y a encore un travail d'information et aussi à destination des personnels de santé. Je pense que tous sont pas forcément à jour des connaissances. Donc là, c'est au niveau de l'État, du gouvernement, qu'il y ait des politiques de santé publique qui poussent dans cette direction et qui informent, mais aussi
après,
qui ouvrent des
structures. Après, on peut pas tout espérer non plus.
Enfin,
quand on voit aussi ce qui se passe au niveau des politiques publiques, on comprend aussi qu'on peut pas tout espérer non plus de l'État et que le combat collectif, il doit passer par des structures alternatives, l'associatif aussi, j'imagine.
Oui.
Et c'est pas évident aussi de dire à des personnes voilà qui font 50 heures semaine, qui sont épuisées, et vous en parlez hein, dans le livre d'ailleurs à la toute fin. Enfin que voilà le capital, je vous cite hein, le capitalisme se met en travers de notre chemin par mille moyens, par l'épuisement au travail, les temps de trajet, les bas revenus, les loyers et les taux d'intérêt. La liste est longue. Comment être en bonne santé dans une société blessante et oppressive?
Oui, bah oui, c'est ça. Et c'est évident que le but, c'est pas de me dire, de dire aux gens, fais de la musculation et ça ira mieux, parce que c'est compliqué, que le projet, c'est un changement de société globale, effectivement, où les gens auront plus de temps pour se faire à manger, pour être avec leurs enfants, avec leurs parents, pour lire, pour avoir des loisirs et pour faire du sport, en fait. Effectivement, les gens qui bossent 35 ou 40 heures par semaine et qui ont une heure ou deux heures de transport par jour, c'est inatteignable, en fait, de leur dire de faire une activité physique de façon surtout intense. Nous, évidemment, moi, je milite évidemment pour un changement de société, quoi. Parce que la société actuelle maltraite la plupart des individus, et c'est un peu plus continuer comme ça. On a le droit, je veux dire, il y a tellement d'outils technologiques, de possibilités, enfin, je veux dire, on aurait le droit, les êtres humains ont le droit à la douceur quand même.
Et aussi, ça vient aussi de votre expérience en tant qu'artiste, de votre vision, votre réflexion globale sur le corps des artistes en général. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, enfin, que je vais pas retrouver là tout de suite, mais cette idée aussi que ce bien-être serait inaccessible aux artistes et qu'on a toujours un imaginaire autour de des artistes comment je pourrais dire ça
les artistes maudits,
voilà,
quoi.
maudits voilà, ouais. Exactement. Et c'est vrai que c'est difficile aussi pour certaines personnes de se reconnaître dans l'esthétique de la salle de sport, les dumbbells noirs, tristes, qu'on n'a pas envie d'aller côtoyer à la salle de sport. C'est aussi une réflexion d'innovation esthétique que vous proposez dans le livre, j'ai trouvé intéressante aussi.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut rien laisser. En fait, il y a tout à réinventer. Et effectivement, il n'y a pas de raison que les dumbbells, les haltères soient noirs, que les machines de musculation soient grises. Il pourrait y avoir de la couleur. Oui, bien sûr, il y a vraiment tout à réinventer. C'est excitant, mais c'est à la fois excitant et colossal, en fait. Mais je pense que c'est en train de faire son chemin. Mais comme pour tous les changements sociaux, ça mettra
beaucoup de temps. Ouais.
Ça mettra du temps. En tout cas, là, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas des éléments pour emprunter cette direction. Je pense à mon livre, mais je ne suis pas seul. Évidemment, il y a plein de coachs formidables sur Instagram ou les réseaux sociaux qui posent, qui pensent ces questions-là.
Ouais.
Donc,
il faut les trouver, il faut bien les chercher, hein, parce que c'est pas facile.
ouais, j'avoue. Ouais. Y a une coach que j'aime beaucoup, je vais la citer ici, parce qu'elle n'est pas dans les références de mon livre, je ne la connaissais pas à l'époque, qui s'appelle Sacha S'adapte.
Ouais.
Qui est une femme qui est en surpoids et tout ça, et qui est très véhémente, en fait, et justement pour dire que tous les corps sont beaux, tous les corps sont légitimes. Et ce que vous disiez aussi sur les artistes est très intéressant, parce que effectivement, on a une représentation des artistes comme étant un peu portés sur la bouteille, écrivant ou créant la nuit, malades, pauvres. Et ces représentations ne sont pas du tout innocentes, en fait. C'est comme les représentations du corps des femmes, du corps des hommes, etc., etc. Ces représentations, en fait, disent quelque chose de politique. Et nous, ça nous aide pas en tant qu'artistes et auteurs, en fait, qu'on sait attendre. Moi, je vois très bien, par exemple, je bois pas d'alcool et c'est pas du tout grave, mais c'est vrai que j'ai eu souvent des moqueries par rapport à ça, parce que je correspond pas au cliché de l'écrivain qui forcément aime l'alcool ou est alcoolique. Et je pense que faut se méfier parce que cette fascination qu'on a pour les corps abîmés par maladie, par l'alcool, par la drogue et tout ça, ça peut aussi former des représentations qui peuvent être attirantes en fait pour des pour des jeunes gens. Moi, je préférerais qu'on soit attiré par des corps en bonne santé qui prennent soin d'eux. Ça ne veut pas dire des corps conformes, hein, ça veut dire des corps de toutes les variétés possibles. Mmh. Mais pas des corps qui sont du côté de l'autodestruction. Mmh. Et ne pas se préoccuper du sport, c'est aussi entériner une réalité sociale qui place les artistes du côté de l'autodestruction. Mmh. Et la réalité sociale est déjà tellement dure, on n'a pas besoin non plus d'avoir des armes pour notre autodestruction. Quoi. Mmh.
Très belle parole. Sur ce, nous allons faire une petite intermède musicale. On s'écoute Annie de Delors de Aloe Black. Pourquoi ce choix ?
Parce que ça parle d'argent et que, en filigrane, je pense, du livre et aussi de notre entretien, il est question d'argent. Parce que, il faudrait de l'argent pour créer des salles plus inclusives, pour engager des coachs handicapés, par exemple. Il faudrait, peut-être aussi, même sans doute, une meilleure répartition de l'argent pour que les gens puissent travailler moins et, sans mourir de faim et pouvoir payer leur loyer et tout en et pour avoir du temps pour leur famille et pour le sport. Donc je pense que la question de l'argent est une question malheureusement, parce que je préférerais que ça soit un monde différent, mais dans ce monde-là, la question de l'argent est une question qui est vraiment primordiale.
Très bien. Bah, écoutez, on s'écoute Aloe Black, Annie de Delors.
Myself down to the bone.
De retour sur Radio Primitive pour échanger avec Martin Page sur son ouvrage « Douceur de la musculation » paru aux éditions Le Nouvel Attila l'an dernier. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans votre travail, c'était toute votre réflexion qui infuse dans tous vos ouvrages et votre œuvre, si je puis dire, la question de l'identité de genre, la non-binarité et en fait, enfin, aussi rappeler l'existence de cet ouvrage non-binaire. Recueil de poésie paru, il me semble, en 2024 aux éditions Bruno Doucet. Et je trouvais qu'il y avait toute une réflexion aussi autour du corps dans cet ouvrage. Et je vais juste faire une petite lecture d'une des poésies qui s'y trouvent. Je crois que c'est la 9. Vous écrivez « Notre représentation compte, nous inventons notre culture visuelle, nous nous imposons au réel, nos manières de bouger, de parler, de nous exprimer, d'être avec les autres sont des formes d'action. Nous avons des caractéristiques inédites, magnifiques, subversives qui apportent à l'humanité. » Je crois que c'était mon préféré.
Merci beaucoup.
C'était mon préféré, vraiment, parce que j'ai fait un peu le lien aussi avec cet ouvrage, l'ouvrage dont il est question aujourd'hui. Est-ce que vous en parlez aussi de ce rapport au sport et comment ça... Enfin, c'était pas si simple au début d'aller pratiquer la musculation et à quel point vous aviez une réflexion autour de votre non-binarité, etc.
Ouais, merci beaucoup de citer ce livre. Ce que dit sans doute mon livre sur la non-binarité comme le livre sur la musculation, c'est que l'espèce humaine est une espèce qui est du côté de l'imagination et de l'invention. Et que nos structures familiales d'aujourd'hui ne ressemblent pas aux structures familiales d'il y a 200 ans. Aujourd'hui, il y a le mariage homosexuel, par exemple. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des enfants par insémination artificielle. Enfin, on est une espèce qui invente tout le temps. Et donc, je trouve que notre rôle en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, c'est rappeler que certes, il y a des frontières, il y a des lignes, mais les frontières sont aussi faites pour être traversées, pour être effacées aussi parfois, pour être bougées. En tout cas, il n'y a pas de fatalité à nos vies, à nos corps, à notre genre. Et qu'il ne s'agit pas d'empêcher les gens de correspondre à des types, à des genres, etc., etc. Mais c'est de dire simplement, en fait, il y a des possibilités. Mmh. Et plus il y aura de possibilités, plus les gens seront sans doute en paix avec eux-mêmes et heureux. Je pense que c'est un peu le point commun de tous mes livres, en tout cas. C'est-à-dire prendre cette matière du réel et dire, ce n'est pas intangible. Mmh. Nous avons une action possible sur le monde et sur nous-mêmes. Et pas forcément une action négative et catastrophique comme on peut le voir actuellement.
Oui, ou doloriste.
Doloriste.
Ouais. Et donc, on ne parle pas de douleur de la musculation, mais bien de douceur de la musculation.
Bien sûr.
C'est un beau message, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio Primitive, sur Curiosity. Est-ce que vous auriez peut-être un message à faire passer avant de clore l'échange à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui ?
Non, pas vraiment de message à faire passer. Sinon, un bon moyen, je trouve, de se lancer dans la musculation, c'est de suivre quelques coachs sur les réseaux sociaux. Alors, bien sûr, il y a mon livre et tout ça, mais je trouve que de voir en action des coachs, des femmes, il y a aussi des coachs aussi âgés qui ont genre 80,
oui, qui sortent,
80 balais. Je trouve que ça permet ça rend les choses possibles et accessibles. Donc, ça peut être un bon début.
Des coachs qui sortent du cliché qu'on en a.
C'est ça.
Ok, très bien.
Exactement.
Merci beaucoup. Et puis,
merci à vous.
Bonne journée à vous et à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Merci infiniment à toutes et tous d'avoir été à l'écoute de Curiosity en ce dimanche 31 mai. Je vous laisse avec Sia, Unstoppable, une musique du choix de notre invité du jour, Martin Page. Je rappelle son ouvrage « Douceur de la musculation » aux éditions Le Nouvel Attila. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies de préférence. Et on se quitte en musique du coup et on se retrouve sinon en replay, en podcast sur le site de Radio Primitive Curiosity. Merci à toutes et tous. Au revoir et à très bientôt.
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my arm around so you are strong. Yeah. I put my arm around and show you that I am. I'm unstoppable. I'm a force with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. Today. Feeling sure is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now.